Salut à tous, mes BG Galbé, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité, le seigneur de Noumen, le sénéchal des Antelichis, l'archiduc du bon sens et tout ce qu'on veut et tout ce qu'on aime. Aujourd'hui, je réponds à un prof de philosophie qui m'a posé une question en m'envoyant un audio avec son visage légèrement modifié par l'intelligence artificielle. Il essaye de parler un peu le johnisme, et on va y répondre parce que la question est très intéressante. Elle met en lumière de la philosophie de la religion, Jésus, Schopenhauer, et elle pose la question de la dualité, du sens de la vie, si selon Schopenhauer, la vie n'aurait pas de sens, selon Jésus-Christ, la vie aurait du sens. Je vous mets son audio et on commande ça tous ensemble, mes BG Galbé. Je vais proposer une réponse qui vous concerne tous, parce que vous êtes tous posé la question en croyant qu'elle était pertinente. Mais moi, je vais déconstruire la question. On voit ça après l'écoute de celle-ci.
Salut à toi, ami philosophe, prince des intelligibilités numériques et contempteur BG de nos illusions. J'ai une question matrixée pour toi. Schopenhauer est pour moi le plus galbé des métaphysiciens, car il ose affirmer que tout dans l'univers n'est que vouloir vivre. Absurde et souvent douloureuse tendance à être de toute chose, insignifiante poussière dans l'espace-temps, finalité sans fin. Tout retourne au néant d'où il vient dans un monde illusoire sans raison d'être ni origine, mais alors quid du Big Bang ? Seule la religion éclairée par la raison expliquerait le pourquoi du comment, l'espérance en l'existence d'un Dieu infiniment puissant et compatissant, peut-être même venu miraculeusement s'incarner pour nous montrer que non, notre petite vie, l'existence même de l'univers et le réglage fin de ses lois ne sont pas totalement absurdes, que tout ça a un sens. Alors philosophe, plutôt foi ou nihilisme, team Jésus ou team Chopi, une autre idée ?
Alors merci Sylvain Portier, je vais faire une tentative de réponse à ta question. Alors déjà, je vais débinariser la problématique de la question. Un monde fonctionnant tel que les monothéismes l'affirment ne me paraît pas moins absurde qu'un univers tel que Schopenhauer pense qu'il est régi. Et je dis ça parce que j'ai beaucoup réfléchi et médité sur la manière dont on pense que les affirmations extraordinaires proposé par les religions donnerait supposément du sens à la vie. Je crois pas que ce soit si simple si on creuse un peu. Alors déjà, le mot absurde, ça vient du latin et ça veut dire sourd, qui sonne faux, quelque chose d'incohérent en fait. Si je prends mon exemple à moi, mais il y a plein de gens qui vont se retrouver dans ma sensibilité, ce sont souvent certains types d'affirmations religieuses face auxquelles mon entendement est resté sourd qui m'ont paru sonner faux et être absurde, voire enfantine. D'ailleurs, je crois pas, par rapport à Schopenhauer, que ce soit sa vision du monde qui lui fasse produire ses humeurs maussades et sa mine renfrognée, mais que celle-ci, humeur maussade et mine renfrognée schopenhauerienne, se manifeste indépendamment de ce qu'il pense du fonctionnement de l'univers. Tout simplement parce qu'il y a plein de gens heureux ou à peu près contents de vivre, approximativement satisfaits de leur existence et qui ne croient pas en Dieu, en ses jugements, et qui trouve finalement sensé de cesser d'exister après la vie. Et il y a plein de gens qui trouvent ça logique, cohérent, et qui relèverait du bon sens, et qui le préfèrent même à un espèce d'austère jugement divin d'un dieu scrutateur caché derrière l'espace tridimensionnel qui fait des listes de gens qui seront d'ailleurs éventuellement refoulés du paradis. Et au passage, si Schopenhauer il était allé au bout de son amour pour les sagesses orientales, parce qu'on sait qu'il a été influencé par les Upanishads, eh ben il aurait pu ou dû peut-être même travailler sa morosité. Hein. La vie aussi entre la souffrance et l'ennui, oui d'accord. Et Bouddha il a fait un tuto top 4 des moyens d'éviter la souffrance. Mais ces atavismes pessimistes d'allemands ont pris le dessus, on se refait pas chef. Voilà. Mais en tout cas, qualifier de nihiliste des gens qui ne croient pas à une espèce d'autorité comme ça suprasensible et à des peines éternelles en enfer et des jouissances éternelles au paradis, ça me paraît un petit peu facile. Étant donné que les gens qui y croient de façon le plus aisément, tu vois, sans obstacle, ne sont pas forcément les gens qui produisent eux-mêmes le plus de sens dans leur esprit. Et qualifier ces gens de nihilistes, pour moi, c'est un préjugé péjoratif sur leur dynamique intellectuelle. Schopenhauer était désenchanté moralement et pessimiste, voire défaitiste. Il avait une vision défaitiste de l'existence, il ne l'aimait pas. Mais la plupart des gens qui n'ont pas la foi, ce ne sont pas des gens qui sont désenchantés, pessimistes, qui rejettent toute contrainte morale de la société. C'est parce que c'est ça le nihilisme. Mais en réalité, la plupart des gens, ils ont une position médiane par rapport à ça. Parce que au passage, pour les gens qui ont la foi, vous avez certains types de détermination qui vous donnent la foi et la conviction. Bah, si c'était aussi simple, les gens les plus intelligents qui ont toutes les informations, ils l'auraient également, si c'était vraiment aussi simple, aussi binaire, aussi cartésien et rationnel. Mais tout le monde sait que c'est pas le cas. Donc faut arrêter d'avoir une psychologie d'enfant et comprendre un petit peu la psychologie et la complexité de la psychologie de vous-même et des autres. Il y a une partie de la religion que je trouve magnifique et une autre qui me semble nihiliste. Pour moi et pour beaucoup de gens, ce sont ces types d'informations, de mécanismes et d'affirmations dites extraordinaires qui relèvent du nihilisme, c'est-à-dire que ça relève du vide, ça relève du rien, ça a l'air de l'impossibilité logique radicale. Et ça me rend, et ça nous rend pessimistes et désenchantés. On y voit des contradictions logiques, des contradictions psychologiques, des contradictions volontologiques. La volontologie, c'est la logique de la volonté humaine. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de gens qui pensent un peu de ma manière ou sur des variantes de ma manière de penser et qui trouvent que la religion, c'est pas le sens qui s'opposerait au nihilisme, qui serait la vie dans le non-sens, etc. Les gens qui ne trouvent pas ça crédible et qui vont voir du côté de la philosophie, de la science, pour en savoir plus sur le mystère de l'univers, parce que ce sont des gens curieux, etc., ne peuvent pas être qualifiés de nihilistes. C'est beaucoup trop facile, ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens de dire que eux pensent que la vie n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas une instance paternelle, un peu fantasmée éventuellement, qui aurait imposé des lois qui ne sont pas prouvées. Donc tous ces gens ne sont pas nihilistes, malgré parfois péjorativement la manière dont on les affuble de ce qualificatif, qui n'a finalement pas beaucoup de sens. Parce qu'un mec qui a la foi du charbonnier et qui va critiquer un scientifique quantique en lui disant ouais, t'es nihiliste, attends, ça va 5 minutes quoi. En fait, quelque part, on est toujours le nihiliste de quelqu'un. Nietzsche, il avait déjà retourné ce terme jadis en le retournant contre les croyants, contre les hommes d'église, contre les religieux, contre les ascètes, en prétendant qu'il dévalorisait ce monde, donc le monde vrai, le monde réel, au profit d'un arrière-monde imaginaire et irréel, donc au profit d'un rien. Et pour lui, cette tendance, elle était fausse intellectuellement, mais morbide psychologiquement. C'était sa formule de la fameuse volonté de néant. Donc vous voyez qu'en étant un peu malin, on peut facilement retourner qui est nihiliste, qui ne l'est pas. La volonté de néant, sacrifier ce monde au profit d'un monde fantasmé qui n'existe pas, mais qui nous apporte une certaine satisfaction psychologique parce qu'on veut se venger de cette vie-là, de cette existence-là, de ce monde-là. Voilà, mais soyez prudents, peut-être que c'est l'analyse nietzschéenne qui en partie a raison. Dire de quelqu'un qui ne croit pas à la religion qu'il est nihiliste, c'est-à-dire qu'il gît dans le non-sens, alors même que selon lui, c'est son bon sens qui lui a fait comprendre qu'il y a certaines impossibilités, contradictions ou juste peu de probabilité que certaines choses soient vraies dans les religions, c'est presque une contradiction. En gros, ce que j'identifie comme mon bon sens me fait penser que ce à quoi tu attribues du sens n'en a pas à mes yeux. Retournement dialectique. Donc moi, je ne mettrai pas deux teams, genre celle de ceux qui ont la foi et ceux qui sont dans le nihilisme, mais plutôt, si je veux faire des catégories, il y a celle de ceux qui cherchent activement à comprendre le monde, le fonctionnement de la réalité honnêtement, à travers, j'en sais rien, la science, la littérature, la philosophie, la religion, tous les types de sagesse, la méditation, j'en sais rien. Peu importe d'ailleurs leur degré de foi, et les autres. Mais même là, dans cette catégorie, je suis pas vraiment satisfait parce que au sein d'un même individu, si tu veux, il peut y avoir les deux tendances qui coexistent et qui s'alternent d'ailleurs à certains moments de la vie et même à certains moments tout court. Moi, ça m'arrive parfois de flirter le soir tout seul dans mon lit, dans la nuit, par mes intuitions, avec une espèce de connaissance immédiate du monde, et je sais plus parfois s'il s'agit de rationalité, s'il s'agit de foi, s'il s'agit de connexion méditative intense, s'il s'agit de déréalisation. Vous voyez, je suis vraiment dans un entre-quatre, dans un entre-huit. C'est pas évident. C'est pas évident, tout le temps. Et parfois, on pense être un honnête chercheur de vérité, et sans s'en apercevoir, on est entravé par des préjugés qui nous rendent bêtes. Et quand on se voit pas de l'extérieur, on s'en rend pas forcément compte, parce que t'as certains préjugés qui sont confortables comme des vieilles pantoufles, molles et chaudes. Et t'as aussi des gens qui sont tellement anti-religieux, pour des raisons que je peux comprendre, qui finalement ne voient plus que le monde comme un immense enclos de l'ego. Il y a que de la matière. Si tu parles d'observation, du fait d'observer, de conscience, ils pensent déjà que déjà t'es dans un processus sectaire, j'ai l'impression. Je te jure, t'as des mecs, quand tu commences à parler de la conscience, du fait d'observer, du parallélisme, comme dirait Spinoza, entre la pensée et l'étendue, on va dire, t'as des gens qui pensent que tu fais déjà partie d'une secte. Et ça montre aussi une certaine fermeture d'esprit. Et puis, il y a aussi autre chose. Parmi ceux dont on dit qu'ils ont la foi, qu'en est-il vraiment? Est-ce que leur cheminement psychologique est-il réellement si reluisant que ça? T'as des gens absolument inaptes à la réflexion, à la pensée autonome, et qui se conforment à telle pensée, à telle philosophie, à tel dieu, à telle religion, tout simplement parce qu'ils ont des prédispositions à se soumettre à n'importe quel type de pensée et d'influence. Faut le voir aussi, dès que tu pénètres dans la psychologie réelle, donc dans le réel humain, y a rien qui est si évident, si binaire, etc. T'as des gens qui sont dans l'attente de la jouissance éternelle et qui investissent pour avoir un retour sur investissement.
C'est du capitalisme.
Donc en fait, ils respectent une mécanique qui pense réelle pour jouir éternellement après la vie. Donc ils sont tout simplement dragués par leur bas instinct. Pour certains, leur vision de la religion et de leur foi, c'est juste une débauche à journée et reportée dans l'arrière-monde. C'est un attrape-couillon, certainement, vous comprenez ? Certainement un attrape-couillon. Et t'as des gens, ils ont aussi le syndrome de Stockholm. T'as des gens qui, sans se l'avouer, se sentent pris dans un chantage à l'enfer. Et ils peuvent pas faire demi-tour. Ça y est, ils ont trop peur. Ils pensent qu'ils vont aller en enfer. Tout simplement parce que l'esprit est faible et trop crédule. Est-ce que c'est une belle chose que de se sentir pris dans un chantage à l'enfer ? Le pari de Pascal, c'est pas quelque chose de beau, hein. Donc dans la religion, il y a le côté spirituel, libre, si tu veux, et extrêmement sectaire et menaçant. Et ces deux aspects coexistent, même parfois dans des âmes qui l'ignorent ou qui feignent de l'ignorer, parce que s'ils le conscientisaient, certaines personnes ne veulent pas admettre qu'elles sont prises en otage dans une menace de l'enfer dans leur religion, parce que si elles l'admettaient, elles auraient l'impression d'être dans le péché, parce qu'elles admettraient quelque part que la mécanique, elle est un peu morbide. Donc c'est quasiment psychanalytique. Le syndrome de Stockholm de certains religieux est la compensation de l'angoisse d'être considéré comme un pécheur et d'aller en enfer parce que la personne se sent déjà menacée avec un flingue sur la tempe, c'est la réalité. Et pour ne pas être en dissonance cognitive, elle finit par croire qu'elle est réellement amoureuse ou qu'elle trouve vraiment ça respectable, et c'est le syndrome de Stockholm. Il y a des gens, ils vivent comme ça dans la religion, tout simplement parce qu'ils sont angoissés, ils sont terrorisés. Donc moi, dans la plupart des cas, en religion, je n'ai pas le sentiment de voir autre chose que des gens mus par des espoirs et des craintes très humaines. Je n'y vois que très rarement de la spiritualité lumineuse. Et puis si on parle de foi, de faire confiance, de doctrine, religion en général, mais il y a beaucoup de gens qui sont en crise existentielle parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans la vie et qui s'orientent vers ces fois, mais dans un second temps, parce qu'elles n'arrivent plus à trouver du sens dans leur existence. Je ne sais pas pourquoi, peut-être elles ont une dérégulation hormonale, mais il faut que les religieux admettent qu'il y a des gens qui sont dans la vie. Le sens chez eux tombe sous le sens. Dans la vie, je sais pas de te lever, d'aller au soleil, d'aller manger, d'aller draguer, d'aller rigoler avec tes potes. Mais c'est très bien de faire ça dans la vie. Et qu'est-ce que vous croyez faire de plus, de toute façon, au paradis, en enfer? Qu'est-ce qu'il y a de plus génial que d'aller se taper des fous rires avec ses meilleurs amis et d'aller coucher avec une nana qui a des beaux... J'en sais rien, mais tu vois, déjà il y a du sens là-dedans. Il y a des gens, ils sont dans la vie, ils n'ont pas besoin d'aller chercher un truc de substitution qui n'arrive que quand le sens il est perdu. Mais le sens il est perdu subjectivement. Il est perdu subjectivement, il y a des gens qui sont pas dans cette perdition là. Donc t'as des gens qui sont pas dans le nihilisme. En fait, le nihilisme, c'est le revers de la médaille du croyant plutôt que celui de l'incroyant qui n'a pas besoin de croire. Puis après, t'as des gens qui aimeraient croire mais qui ne sont pas convaincus. T'as d'autres personnes qui sont convaincues mais qui aimeraient ne pas croire, j'en suis certain. Donc comme on s'aperçoit finalement que tous les cas de figure existent, le clivage foi-nihilisme, il peut être intéressant à poser sur le papier de façon très, très conceptuelle, mais quand on entre dans la dynamique psychologique réelle des gens avec ces deux pôles qui s'alternent et s'entrelacent dans une seule et même caboche, on se rend compte que la vie, elle est plus compliquée. Alors du coup, j'ai pas répondu à la question. Schopenhauer ou Jésus ? Les deux, chef ! Les deux ! Arthur, c'est un des philosophes qui m'a le plus inspiré, mais Schopenhauer, c'est qu'un rat de bibliothèque, il a fait que écrire, alors que Jésus, dans son projet épique, il a quand même consenti à mourir et à ressusciter, ou à faire croire qu'il a ressuscité, parce que Dieu l'aurait voulu, et tout le monde y a cru, et il a dit « allez porter l'évangile partout », et ça a marché. Et quand il dit à la femme qui parfume son habit, quand il a l'intuition qu'il va bientôt mourir, il y a une femme qui, pour préparer son corps, lui met du parfum sur son pagne là. Jésus, il dit « arrêtez de la critiquer, cette femme, elle a raison de me parfumer. Vous, Vous lui dites de parfumer des clochards, mais vous aurez tout le temps d'aller parfumer, d'aller aider des clochards. Cette femme-là, elle me parfume parce que moi, vous m'aurez pas tout le temps. Et vu que ce qu'elle a fait, c'est génial, son histoire, elle sera connue, cette femme sera connue partout dans le monde, dans les milliers d'années à venir. Et moi, je vous parle de cette femme qui a parfumé le corps de Jésus. C'était autoréalisateur, mais que ce soit vrai ou non, il a eu la puissance de rendre, d'actualiser tout ça. Performatif, autoréalisateur, et quelque part, où elle est la différence entre le côté « c'est Dieu qui l'a voulu » et « c'est une mise en scène », sachant que tout ce qui est dit arrive. Et c'est là où, pour moi, la religion, elle devient intéressante. Tu dis « putain, ce mec, c'est « the son of God ». Il l'a dit, tout le monde y croit, c'est juste génial. Et c'est ça qui est grandiose chez lui. Et puis il a des punchlines de malade, il a des punchlines de ouf. Il a une mégalomanie cosmique et un sens moral extrêmement fin. C'est un personnage contrasté et fascinant. Et je me suis même dit un jour, mais Jésus, c'est un comédien. Jésus, il a une manière d'incarner, de prétendre incarner la volonté de Dieu. C'est le plus grand de tous les acteurs. Mais c'est même pas un blasphème, je veux dire. Il acte, l'acte c'est lui, tu vois. Le verbe se fait chair, c'est le verbe se fait chair, c'est un peu l'acteur. Jésus, c'est l'acteur qui a lu des livres et il pensait être le personnage. Il a le syndrome du personnage principal, mais ça lui a bien réussi. Dans la Torah, il s'est dit, mais ce mec, le serviteur souffrant, le machin, mais c'est moi. Mais Dieu, il pense que c'est moi et il a joué, il a endossé ce rôle. C'est un comédien cosmique, Jésus-Christ. Bref, alors je reviens un petit peu plus sur la question. Si on doit vraiment schématiser la position foi vs nihilisme, ça revient à dire, est-ce que après la vie, il y a l'arrêt des sensations, donc de la souffrance et du plaisir, qui correspondrait intuitivement au néant, qui, selon moi, pris dans son acception psychologique, signifie le degré zéro de la conscience, donc le degré zéro c'est l'absence de sensation mais c'est pas l'inexistence, le degré zéro, ou alors y a-t-il une continuité de bonheur pour les uns et de malheur pour les autres, l'enfer et le paradis quoi, voilà. Parce que finalement la différence entre les affirmations religieuses et athées, ça, c'est juste ça, que tu sois athée ou religieux, t'es dans le même monde, il se passe les mêmes choses, mais que tu sois athée ou religieux, apparemment après la vie, il y a deux choses différentes, donc continuité de vie dans la souffrance ou dans la joie, ou pas de continuité. Les nihilistes seraient ceux qui pensent qu'il n'y a pas de jugement après la vie et qu'il n'y a pas de vie après la vie, et les gens ma foi seraient ceux qui se tournent du côté des dogmes religieux. Mais si j'avais un tempérament très athée, je pourrais retourner la question et la poser autrement, et je pourrais dire team illuminé ou team rationnel. Le mot illuminé a parfois le même degré de péjorativité que le mot nihilisme. Donc au fond, je n'ai même pas répondu à la question, mais je sais pas ce qu'il y a après la mort. Mais j'ai l'impression qu'on présuppose toujours qu'il y a soit le néant, soit le paradis et l'enfer, comme si c'était une espèce de nécessité logique auquel on pouvait appliquer le principe logique justement du tiers exclu. Soit il y a le néant, soit il y a le paradis et l'enfer. Bah, le tiers, il n'est pas exclu. Et moi, je pense plutôt que le tiers a plus de chances d'être que les deux néant et paradis enfer. Il pourrait très bien y avoir d'autres phénomènes, d'autres sensations avec je ne sais pas quel régime de considération identitaire par rapport à quelqu'un qui aurait déjà été là. C'est très mystérieux. Une continuité naturelle, un autre régime d'existence, peut-être des réalités, des dimensions de réalité que la science peut-être même aider, des intuitions religieuses va finir par découvrir. Moi, par exemple, j'ai personnellement beaucoup de mal à adhérer à l'idée d'une éternité personnelle après la mort, personnelle au sens de identitaire, parce que déjà, selon moi, à la base, on appartient à l'univers et à sa substance unique qui est éternelle. Alors l'impermanence de mon visage, de mon prénom, de mes souvenirs, toutes ces petites choses qui sont insignifiantes aux yeux de l'éternité, me semblent être en fait des petites catégories pour nous identifier dans le monde quadrillé, délimité et divisé qu'est le monde, on va dire, matériel. Mais quand je médite un peu, ça me semble pas relever d'un impératif absolu que ce soit sauvegardé dans un enclos bienveillant. Parce que les phénomènes et les identités qui composaient ma vie ne sont qu'un revêtement de l'être éternel et de ses infinies modalités. Mais comme à la base, je m'identifie déjà à ça, à l'être éternel et toute puissante substance qui est, et non à un moi faillible, froid, personnel, qui devrait continuer à faire altérité avec le monde qui l'environne, tout va bien pour moi, et je crois que cette pulsion de sauvegarde du moi qui affirme de façon sous-jacente et implicite une dualité entre le monde et moi est une pulsion de conservation issue de ton cerveau, on va dire reptilio-mammiférique, transposée dans le domaine naïf, illusoire du grand mysticisme religieux. Et je dirais un peu mal transposé, comme mal placé, et qui cesse quand on commence à avoir une vision du monde un peu plus mûre. Peut-être. Donc moi, je crois que je parviens à réconcilier les contraires. Je suis de la mouvance héraclitéenne dans l'unicité parménidéenne. Et je dirais même que Schopenhauer n'était pas nihiliste. Il croyait à la volonté. C'est quand même drôle, ça. Le monde comme volonté et comme représentation. Schopenhauer a un dieu. Sa vision du monde, elle est basée sur une entité métaphysique qui agit, qui est douée de volition. Elle est éternelle et permanente. La vision de Schopenhauer est fondée métaphysiquement, ontologiquement. C'est pas un matérialiste. Il se sent pas vivre dans un vide ontologique insensé. Bon, il dit que le vouloir vivre de la volonté, il est aveugle et il veut pour vouloir, comme si la volonté, elle était débile, que c'était une roue. Et c'est pas parce qu'il dit que la volonté, elle est aveugle, qu'elle perd son sens, hein. Regarde dans Oedipe Roi, Tirésias, le vieillard aveugle. Mais c'est les gens aveugles qui voient sur le long terme, parce qu'ils voient pas le champ visuel. Dans tous les mythes, les gens aveugles, c'est les gens qui ont justement plus de sens que les autres, parce qu'ils sont, comme dirait Kierkegaard, ils sont au-delà des plaisirs esthétiques. Ils sont dans la projection, ils sont dans le pur esprit. Voilà, la volonté de Schopenhauer, c'est une part de Dieu. La volonté, c'est la main de la conscience pour parvenir à sa fin. La conscience, qu'est-ce qu'elle veut? La conscience, c'est la connaissance dans la vie, je parle pas d'un point de vue personnel. La conscience, pour émerger, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de discipliner la matière, parce que tu vois que des cailloux, ça marche pas. Et pour discipliner la matière, elle a besoin de volonté. Et qu'est-ce que fait la volonté pour discipliner la matière? Elle prend ce que les matérialistes appellent l'évolution, sur des millions d'années. La volonté, l'évolution et la conscience sont de mèche pour faire advenir à la fin les phénomènes de conscience et la houle humaine et la foule sentimentale, avec des gens qui ont un pouvoir mystique comme moi et qui enseignent au peuple. D'accord? Alors, vie éternelle ou pas vie éternelle? Jésus a dit, en parlant au Père, « Comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais si tu arrives à la connaissance la plus pure de Dieu, de la conscience, t'as même pas besoin d'organiser une temporalité en disant « après la vie, j'aurai la vie éternelle ». T'as pas besoin, t'es déjà dans l'éternité. Les hauts niveaux de conscience, ils ont compris qu'ils étaient déjà dans l'éternité. Arrêtez de croire que l'éternité, elle vient après. L'éternité, elle a toujours été là et nous en provenons. Les gens qui disent « ouais, c'est comme c'était avant la vie, mais tu te souviens d'avant la vie ?» Non, je me souviens pas, t'étais dans le néant. Mais je me souviens, moi, d'avant la vie. Je me souviens d'avant ma vie. Avant ma vie, j'étais pas une absence de conscience. J'étais une conscience de l'absence. Je me souviens très bien de l'univers avant la fondation du monde. J'y étais déjà parce que je suis dedans et que la temporalité, elle est mélangée dans l'éternité. C'est comme si l'éternité, c'était la soupe, une grande soupe, et la temporalité, c'était les petits ingrédients, les petits morceaux de ciboulette. Aujourd'hui, je suis une ciboulette, mais je me souviens très bien de la grande soupe qui était l'éternité. J'y proviens. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. C'est dit dans l'évangile. Ceux qui vivent selon l'esprit sont déjà des enfants de Dieu. Et pour les chrétiens, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est quoi? C'est le sens des choses. La vérité, c'est l'intelligibilité de la réalité. Et la vie, c'est la conscience. Donc, le chemin, la vérité et la vie, moi j'ai envie de te dire, si tu vas dans le sens de l'intelligibilité, tu comprends que tu ne fais plus qu'un avec la conscience ou Dieu. C'est QFD, tout nous y ramène. Tu peux réfléchir de façon païenne, de façon chrétienne, de façon tordue et philosophique. Tous les chemins mènent à Rome. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, la source, l'un. C'est pour ça qu'au paradis, on sera tous vêtus de lin blanc. Le lin blanc. Parce que dans la chromaticité, la lumière, le blanc, c'est le tout. C'est toutes les couleurs. Et quand tu t'incarnes dans la vie, que tu mélanges tout, c'est du noir, le noir pur. Donc au paradis, le revêtement de lin blanc, ou que tu peux l'écrire lin blanc comme tu veux, c'est un pléonasme mystique doublé d'une allégorie vestimentaire de la plus noble extraction. Le lin c'est lin, le blanc c'est tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et tout, c'est déjà pas mal comme on vient de le voir. Amen, galbavou, nebege galbe, à la prrrr. prochaine, il y a une vidéo qui s'annonce sur Bégodo, sur Raz et Cassandre, le duo des streamers là. Bébé Gégalbé. Toujours un partenariat 2026 avec YFood, la gale boisson. La gale boisson des dieux, Mémé Gégalbé. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Envoyez cette vidéo à l'abbé Mathieu Raffray pour qu'il accepte, je ne l'ai pas encore demandé, mais de faire un débat avec moi. Et là, ce sera un débat qui va changer la face de l'humanité. S'il le comprend, il acceptera. Mémé Gégalbé, je vous dis à la prochaine. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Mais Dieu le veut, car on travaille en binôme. Merci à Sylvain Portier, allez voir sa chaîne YouTube.